On a entendu... Ah, ça me gêne ce truc-là. Hop. Il est coincé sous l'estrade. Hop là. Merci. On a entendu parler tout à l'heure de la marche pour Jésus. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui sont absolument partout. Marche pour Jésus, le concert de Cieux ouverts, Glorious à Lyon aussi. Vraiment, qui sont partout. Et quand je vois ça, ça me réjouit, parce que je vois là un feu, un enthousiasme. Et en même temps, je me dis, mais il est passé où l'enthousiasme de ma conversion ? Vous savez, les débuts, je ne sais pas s'il y en a pour vous, peut-être ça fait un peu loin, j'en sais rien. Mais ces débuts-là où vraiment on a ce feu ardent en nous et puis on a envie de partager notre foi et puis on le fait parfois un peu à tort et à travers d'ailleurs, ça arrive aussi. Mais moi, je me rappelle, au début, effectivement, c'était vraiment comme ça. Je courais de convention en convention. On avait des conventions jeunesse inter-église. Il y avait le groupe de jeunes. On faisait des randos ensemble. Il y avait le parcours alpha qu'on faisait ensemble. Je suis allé à une rencontre de Pentecôte à Valence. Je m'en rappelle encore. J'allais à la convention charismatique à Gagnères. Enfin, en espagnol, on dit « ça apunta a un bombardeo ». Ça veut dire il irait même à un bombardement, quoi. Enfin, si on lui proposait, quoi. Cette fougue-là, elle est passée où ? Elle est passée où ? Il y a la vie qui se densifie ensuite. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, dans vos vies, mais moi, je me suis marié, puis j'ai eu un fils, puis j'ai repris des études. Et alors là, je pensais que j'étais au top de ce que je pouvais fournir en matière de travail. Et puis après, on est revenu en France. Et je suis rentré dans le ministère pastoral, c'était un autre défi. Et puis là, ce n'était pas un fils, c'était deux qui arrivaient d'un coup. Et je me suis dit, mais je ne savais déjà pas comment faisaient ceux qui avaient plus d'un enfant. Alors là, je me suis dit, mais comment font ceux qui ont des triplés ? Je veux dire, il n'y a que deux seins, il y a trois bouches, comment ils font ? Comment tu te débrouilles ? Comment tu fais ? Et en fait, tu entres dans une espèce de, je dirais, de routine qui est même nécessaire pour survivre. Voilà, et puis tu rentres dans un quotidien qui est hyper chargé. Il faut assumer des responsabilités. Et parfois, on se sent un peu noyé dans tout ça. Et puis un jour, on se retourne et on se dit, mais où est passé l'enthousiasme de ma jeunesse ? Bon, il est peut-être passé dans un peu de fatigue accumulée aussi, il faut bien le dire. Mais où est passé mon premier amour pour le Seigneur ? Où est passée cette fougue qui était la mienne ? Cette envie de partager l'Évangile ? Où est-ce que c'est passé ? Alors, on arrive petit à petit à la fin de l'Épître aux Colossiens. Ça arrive, ça y est, on est au bout, au chapitre 4. Et on atteint ce qu'on appelle les salutations finales. Vous savez, c'est le bonjour que Paul passe parfois à la fin de ses lettres. Et je ne sais pas comment vous faites, vous, quand vous lisez ça, mais j'imagine que voilà, on passe ça un petit peu. Bon, bah, il dit bonjour à ses copains, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans ? Pas grand-chose. Et en fait, quand on y regarde d'un peu plus près, quand on se penche dessus, je crois qu'il y a de belles choses à tirer de ce qui apparaît de prime abord comme peut-être trivial, comme sans importance, et de belles choses à tirer, notamment vis-à-vis de cette question de où est passée la fougue de ma jeunesse, de ma conversion. Alors, on va aller lire ça, c'est dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 4, les versets 7 à 18, c'est-à-dire toute la fin de l'Épître. Mais avant, je vais prier. Seigneur, à nouveau, on est reconnaissant pour ta parole qui est lumière et vie. Et c'est vrai que même dans ces passages qui peut-être nous paraissent être très anecdotique, eh bien, il y a des trésors à tirer de ta parole quand on se penche dessus, quand on l'étudie un petit peu, quand on prend la peine d'essayer de regarder un petit peu au-delà de ce qu'on voit comme ça de prime abord. Je te prie, Seigneur, pour que ce matin, tu touches nos cœurs par ce qu'on va lire maintenant. Et voilà, que ton œuvre se fasse en nous, Seigneur, que ce que tu veux voir ta parole produire en nous, eh bien, soit produit, Seigneur. Et on a confiance parce qu'on sait que cette parole, elle ne revient pas à toi sans effet, à condition qu'on l'écoute, Seigneur. Alors on te prie de disposer nos cœurs. On veut te dire qu'on est ouvert à ta parole, ouvert à ce que tu as à nous dire ce matin, ouvert à la manière dont tu veux venir nous interpeller chacun dans notre quotidien, peut-être surchargé, peut-être où on te sent très loin, Seigneur, parce qu'on est pris par tout ce qui constitue la vie. Mais Seigneur, toi, tu t'adresses à chacun de nous. Et c'est un temps qu'on a mis à part pour toi ce matin, pour que tu puisses le faire. Et on te dit qu'on est là et qu'on est disposé à t'entendre. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Colossiens 4, à partir du verset 7, nous lisons ceci. En ce qui me concerne, Tychique, qui est dans le Seigneur le frère bien-aimé, le ministre digne de confiance et le compagnon d'esclavage, vous mettra au courant de tout. Je vous l'envoie tout exprès pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il vous encourage. Je l'envoie avec Onésime, le frère bien-aimé et digne de confiance, qui est des vôtres. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabé, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient vous voir, faites-lui bon accueil. Avec Jésus, qu'on appelle Justus, parmi les circoncis, ce sont les seuls qui collaborent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi un réconfort. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Esclave de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parvenu à l'accomplissement et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez bon. Je lui rends ce témoignage, qu'il se donne beaucoup de mal pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, ainsi que Nympha et l'Église qui est dans sa maison. Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous, vous lisiez également celle qui vous arrivera de Laodicée. Dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier. Que la grâce soit avec vous. Alors, Paul est en prison quand il écrit ces mots. Et on l'avait vu déjà il y a un bon moment au cours de cette série. Il ne connaît pas forcément très très bien l'église de Colosse. En tout cas, c'est pas lui qui est la figure, je dirais, mise en avant. C'est Épaphras. C'est probablement Épaphras qui a amené l'évangile dans cette région. C'est peut-être Épaphras aussi qui a fondé cette église. En tout cas, c'est pas Paul. Et toute cette épître qu'on a traversée célèbre la seigneurie du Christ et appelle, on l'a vu à plusieurs reprises aussi, les croyants à grandir en maturité, à vivre enracinés en Jésus-Christ. Et on termine ici, finalement, avec ces salutations finales par une image que je trouve très vivante de la vie d'Église, et pas seulement de l'Église de Colosse, mais la vie même qui existe entre les communautés. Et ce qu'on voit, c'est une photographie de ce que j'appellerais le discipulat en action, en fait, qui met en scène des personnes absolument ordinaires, mais qui sont embarquées dans une mission qui, elle, est extraordinaire. Et quand je lis ces salutations, je me pose une question, et cette question est la suivante. Est-ce que mon nom figurerait dans une lettre de Paul ? Est-ce que je ferais partie de ces personnes qu'il cite en disant « Vous avez les salutations d'eux, et puis moi j'envoie machin à tel endroit, etc. » Est-ce que mon nom figurerait dans une lettre de Paul ? Il y a beaucoup de noms qui apparaissent ici. On a par exemple Tychique, qui est le frère bien-aimé, un fidèle serviteur, un compagnon de service. C'est un proche de Paul, un disciple fidèle. Il est mentionné dans plein d'endroits, en fait, ailleurs qu'ici. On voit en Actes 20, verset 4, que c'est un des compagnons de Paul lors de son troisième voyage missionnaire. On voit en 2 Timothée 4, 12, Paul dit « J'ai envoyé Tychique à Éphèse ». Donc, il l'envoie vers Éphèse. Et effectivement, en Éphésiens, on voit que c'est lui qui est porteur de la lettre, Éphésiens 6, 21. En Tite 3, 12, on lit aussi « Lorsque j'enverrai Artémas ou Tychique te rejoindre, fais ton possible pour me rejoindre à Nicopolis, car j'ai décidé d'y passer l'hiver ». Donc, ce qu'on voit ici, c'est que Tychique, c'est aussi une option fiable pour remplacer Tite en Crète le temps de son absence pour prendre soin des chrétiens là-bas. Donc, Tychique, c'est un homme de confiance. Il est capable d'encourager les églises. C'est vraiment un proche collaborateur de Paul. Et puis, dans ces premiers versets, versets 7 à 9, on voit aussi un autre nom, qui est celui d'Onésime. Onésime, c'était un esclave qui a fui de sa condition. En tout cas il est parti de chez son maître. Son maître est un chrétien qui s'appelle Philémon. Et en fait, Onésime est l'un des objets principaux de cette lettre que Paul écrit à Philémon. Et ici, il apparaît dans notre lettre aux Colossiens comme un frère fidèle et bien-aimé. Alors, il s'est passé des choses entre la lettre à Philémon et le moment où Paul peut l'appeler frère fidèle bien-aimé. Et en Philémon, ce qu'on lit dans les versets 10 à 16, je ne vous donne pas le chapitre parce que comme il n'y en a qu'un, il n'y a pas de numéro de chapitre. Donc, Philémon, versets 10 à 16. Paul donc s'adresse à Philémon et lui dit « Je t'adresse une demande en faveur de mon enfant que j'ai engendré en prison, Onésime. » Et là, on se dit « Ah, là, il s'est peut-être passé quelque chose. » Onésime, alors est-ce que Onésime était en prison avec Paul ou est-ce que... En tout cas, ils se sont rencontrés, ils se sont connus. Et Paul dit, je l'ai engendré. Alors dans le langage de Paul, ça veut dire, il est venu à la foi, voilà, par nos échanges, par nos discussions. Je l'ai engendré en prison, il est mon enfant. Et il dit, je t'adresse une demande en faveur donc, de mon enfant que j'ai engendré en prison, Onésime, qui autrefois t'était inutile, mais qui maintenant est utile, à toi comme à moi. » Alors, ça c'est, je ne sais pas, il est peut-être passé par la France, Paul, parce qu'il fait un jeu de mots. Il fait un jeu de mots ici, en fait, Onésime, ça veut dire utile, en grec. Donc voilà, il dit, alors lui qui s'appelle utile, qui t'était autrefois inutile, maintenant il t'est utile, bon bref, il s'amuse comme ça. Pourquoi il lui était inutile ? Bah, parce qu'il était parti, il s'était enfui. Mais maintenant, il est utile, et il est utile à toi comme à moi. Comme quoi ? Comme esclave ? Non. Comme frère dans la foi, comme compagnon dans le service. Et Paul dit à Philémon, je te le renvoie, lui, c'est-à-dire mon propre cœur. On voit là cette relation fraternelle que Paul a développée maintenant avec Onésime. Et il dit, je voulais le garder auprès de moi pour qu'il me rende des services à ta place. Pendant que je suis en prison pour l'évangile, c'est sympa, c'est une manière de dire tu pourrais être là, t'es pas là, bon, lui il était là, bon. Mais j'ai rien voulu faire sans ton accord pour que ton bienfait ne soit pas forcé mais volontaire. Quel bienfait ? De quel bienfait il parle ? Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours, dit Paul, non plus comme un esclave, mais beaucoup mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement. Et de toi, à plus forte raison, soit dans la condition humaine, soit dans le Seigneur. Qu'est-ce que fait Paul, là ? Il est en train de dire à Philémon, ton esclave, il serait peut-être temps de le laisser libre, de le libérer. Il est utile, non plus tant pour toi à la maison, pour s'occuper de l'intendance, on en a parlé de la condition des esclaves à l'époque, il est utile dans le Seigneur, il est utile pour l'avancée du royaume, il est utile auprès de moi. Donc il y a un appel là à ce que Philémon accueille son esclave, non plus comme un esclave, mais comme un frère. Et puis il y a un appel aussi, à peine déguisé, à ce qu'il donne une pleine liberté à Onésime, à ce qu'il l'affranchisse pour qu'Onésime puisse servir pleinement le Seigneur, notamment auprès de Paul qui est en prison. Parce qu'au fond, c'est ça la vie de disciple, c'est, je dirais, aller de liberté en liberté, Christ vient et nous libère. Et puis c'est aussi le fait d'être les uns avec les autres. On en a beaucoup parlé, je crois, pendant le temps de louange, cette nécessité qu'on a d'être les uns avec les autres. On a besoin les uns des autres. Il y a ce dicton qui dit « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Il n'est pas dans la Bible, mais je crois qu'il est assez juste. Dans l'Église, personne ne va seul. On ne peut pas marcher tout seul. Disciple du Christ, ce n'est pas une aventure en solo. Ce n'est pas un SMS qu'on envoie à une personne, c'est un groupe WhatsApp, quoi. C'est vivant, ça bouge. Chacun y va de son implication. Et Paul, ici, s'entoure de plein de disciples, on le voit. Tous ces noms qu'il donne, là, ce sont des noms de gens qui sont à côté de lui, qui collaborent avec lui. Et il y a une grande diversité dans ces noms. On a d'abord Aristarque. Aristarque, on entend parler de lui en Actes 19-29 lors de l'émeute à Éphèse. Alors, il y a une émeute à Éphèse parce que Paul arrive à Éphèse et puis il commence à dire vos idoles, là, les trucs que vous vendez à l'image d'Artémis, en fait, c'est pas des dieux, quoi. C'est pas des dieux. Et évidemment, les marchands d'Éphèse ne sont pas hyper ravis de ce message de Paul. Et donc, il y a une émeute qui se crée. Et le texte nous dit qu'ils emmènent avec eux, ils embarquent avec eux Aristarque qui est là. Donc, il se met dans le beau drap, Aristarque, en étant à côté de Paul. On voit aussi qu'il est présent lors du voyage de Paul à Rome, le dernier, celui dont vraisemblablement il ne ressortira pas les pieds devant. Donc, Aristarque, il est vraiment dans les moments, assez délicat de la vie de Paul. Il est fidèle dans les dangers encourus aussi. Ensuite, on voit Marc. Marc, qui est l'auteur de l'évangile du même nom, dont on nous dit ici qu'il est cousin de Barnabas, mais on apprend d'autres choses quand on regarde un petit peu de plus près ce qui est dit de lui dans la Bible. On voit notamment en Actes 15, 37, qu'il a été à l'origine d'un conflit, et pas un petit conflit. On nous dit que Barnabas voulait emmener aussi Jean, appelé Marc. Bon, ça, c'est un autre truc, c'est qu'on aime bien redonner des noms à des gens qui en ont déjà un. C'est comme Simon qui devient Pierre, etc. Bon, lui s'appelait Jean et on l'appelait Marc. Et Barnabas voulait l'emmener lors d'un voyage missionnaire. Mais, verset 38, Paul estimait qu'il ne fallait pas emmener celui qui s'était séparé d'eux en Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leur tâche. Marc, à un moment donné, il a manqué de fidélité. En tout cas, c'est ce que Paul a pensé. Il n'est pas fiable, celui-là. On l'emmène, et puis à la fin, il nous lâche, il ne nous suit pas. Et ça provoqua un tel désaccord, verset 39, qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Mais, ce même Marc, en 2 Timothée 4, 11, Paul le cite en disant qu'il est utile pour le service. Lui aussi, c'est un onésime. Il est utile pour le service. En 1 Pierre 5, 13, Pierre parle de Marc comme de son fils, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un dit « je l'ai engendré, c'est mon fils », etc. C'est qu'il y a une relation spirituelle forte entre les deux. Et donc ici, on retrouve Marc à la fin de cette lettre de Paul. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabé. Marc est avec Paul à ce moment-là de l'histoire. Ça veut dire que il y a des choses qui se sont passées là aussi. Marc, il n'a peut-être pas été fiable à un moment donné. Et puis, visiblement, Paul a révisé son jugement. Peut-être parce que Paul s'était trompé dans son jugement. Peut-être parce que Marc a grandi aussi, a évolué dans sa foi. Et en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que cette relation, elle a été restaurée et qu'ils continuent de marcher ensemble. Ensuite, on a Jésus, dit Justus. C'est ce qui nous est dit ici. Alors lui, on ne sait rien de lui. C'est le seul endroit où il est cité, il est inconnu ailleurs. Ce qu'on voit, c'est que avec Marc et Aristarque, ce sont les seuls juifs là, dans l'équipe qui nous est donnée, dans tous les noms qui nous sont donnés ici. Et c'est peut-être aussi un réconfort pour Paul, parce qu'il a évidemment à cœur son propre peuple. Ils font partie de cette minorité fidèle. Et puis, il y a Épaphras, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était le fondateur probable de l'église de Colosse. En tout cas, il en est l'un des piliers, ça c'est sûr. Colossiens 1, 7 nous parle de ça. C'est un homme de prière. Il lutte pour que les Colossiens deviennent matures. Il lutte dans la prière, ça nous est dit au verset 12. On a Luc qui est le médecin bien-aimé, auteur du troisième évangile, auteur des Actes aussi, qui nous est présenté comme un fidèle compagnon. En 2 Timothée 4, 11, alors que Paul est en prison, il dit « Luc seul est avec moi ». Il n'y a que lui qui est là. Il n'y a que lui qui est avec moi. Et puis finalement, il y a Démas. Alors Démas, lui, il n'est pas qualifié ici, on ne sait pas. On nous dit juste qu'il est là. Voilà. Il vous salue ainsi que Démas. On ne sait pas grand-chose de lui, si ce n'est que en 2 Timothée 4, 10, Paul parle de lui en des termes franchement peu reluisants, en disant « Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent ». Donc là, on a quelqu'un qui, au moment de l'écriture de l'Épître aux Colossiens, est un proche collaborateur de Paul. Paul le cite, il envoie ses salutations. Il ne s'étale pas trop. Voilà, il y a Luc, le médecin bien-aimé. Démas, c'est Démas. Alors peut-être que ça commence déjà à sentir un peu le roussi, peut-être qu'il y a déjà un peu d'eau dans le gaz, Mais en tout cas, il est là, il est présent. Et celui-là, à un moment donné, va abandonner Paul, pour le moins, et peut-être même la foi. Alors, on voit ici Tychique, que Paul envoie par Mons et par Vaux. On voit Onésime, un esclave en fuite, qui est devenu disciple du Christ, que Paul espère voir maintenant à ses côtés, libéré par son maître. On voit Aristarque, qui est un compagnon de galère, qui est vraiment dans tous les mauvais plans, en fait. On voit Marc, qui a déçu Paul, mais qui a su regagner sa confiance. On voit Justus, qui est discret, mais présent. Et puis, on voit Epaphras, qui prend soin de l'église de Colosse. On voit Luc, qui était présent auprès de Paul quand il était abandonné par tous. Et puis, Démas, qui a décroché, peut-être à la manière d'un Marc, peut-être qu'il reviendra plus tard, on ne sait pas. Et je crois que ce que ça nous montre, c'est que vraiment, la vie de disciple n'est pas monolithique, la vie d'église n'est pas monolithique. On a parfois peut-être une idée très, comment dire, très claire de ce qu'est un disciple, de ce que devrait être un disciple. Et puis là, on voit finalement des parcours qui sont très divers, très variés, très chaotiques même. Il y a des diversités de parcours, il y a des diversités de caractères. Il y a des gens qui passent par des chemins escarpés, avec des hauts, avec des bas, des gens qui partent, qui reviennent. C'est vivant. Alors peut-être qu'on fera bien de briser dans notre tête l'image du chrétien parfait, du disciple idéal, qui peut-être nous semble tellement inaccessible que finalement, bah nous, on ne peut pas suivre. Quoi. On ne peut pas suivre. On ne peut pas suivre parce que, justement, peut-être qu'on est pris par tous les engagements du quotidien et on se dit, bah, être disciple, c'est s'investir de telle ou telle manière. Donc, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas parce que je suis trop pris par la famille, par le travail, par tout un tas de choses. En fait, on est tous en chemin. Et dans ce parcours-là, il y a des frictions. Parfois, on est très bien ensemble et c'est super. Et puis parfois, c'est plus compliqué. Les caractères se frottent. On a Barnabé qui se fâche avec Paul et puis Paul qui part. Et puis, enfin voilà, et Marc qui part avec Barnabé, Paul qui part d'un autre côté, etc. Et puis finalement, ils arrivent quand même à se réconcilier, à se retrouver. C'est pas toujours facile, mais on avance ensemble. On a besoin d'avancer les uns avec les autres. Et on peut aussi aider certains à revenir dans la course. Voilà. Onésime s'est enfui, il rencontre Paul, et Paul le ramène non seulement vers son maître, mais le ramène surtout vers son frère, puisqu'il est devenu un frère. Et en fait, c'est même un peu notre boulot, en vrai. Jésus nous restaure, mais Jésus nous envoie aussi. On parlait au début de ce zèle de notre jeunesse qu'on a vu effrité par une vie qui s'est faite plus dense, plus intense, et on se demandait comment le retrouver. Comment le retrouver ? Et je me dis que quand on veut circonscrire un feu, quand on veut éviter qu'il s'étale, ben on s'arrange pour le mettre au milieu d'une clairière, par exemple. Puis on va l'entourer de pierres, et puis on va le surélever pour qu'il ne puisse pas consumer les arbres environnants par les racines. Autrement dit, quand on veut circonscrire un feu, on l'isole. On fait en sorte qu'il ne soit pas au contact de ce qui pourrait s'embraser à côté de lui. Eh bien, le feu du Saint-Esprit n'est pas destiné à être isolé. Il est fait pour se propager. Il est fait pour grandir en nous, non seulement en nous, mais pas seulement en nous. Il est fait pour consumer tout ce qui l'entoure, pour consumer tout ce qui nous entoure, pour consumer les personnes qui sont autour de nous aussi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Paul n'est pas isolé et qu'il ne joue pas la carte de l'isolement. Et c'est curieux quand même de dire ça alors que Paul est en prison. Paul est en prison et pourtant il n'est pas isolé et il ne joue pas la carte de l'isolement. Il salue les communautés chez Nympha qui accueille une église chez elle. Le grec laisse place à l'ambiguïté, mais probablement c'est une femme, mais peu importe. En tout cas, il salue les communautés. Il demande à ce que ces lettres circulent entre les églises. C'est-à-dire que ça bouge, quoi. C'est pas que pour vous, c'est pour d'autres. On transmet, et puisque eux ont transmis, ils vous le transmettent aussi. Ils missionnent des personnes, Archippe, ici, qui est mentionné aussi en Philémon 2 comme un collaborateur bien-aimé. Et puis, à la fin de cette lettre, il mentionne ses chaînes. « Souvenez-vous de ma condition de prisonnier. » Et je le répète, je trouve ça intéressant, parce que si on se demande si nos circonstances personnelles sont favorables à une vie de disciple dynamique, en lien avec les autres, on peut se rappeler de Paul en prison. Il était en prison. Il termine enfin par sa signature, qui, au-delà d'un souhait de montrer l'authenticité de la lettre, hein, dire « c'est bien moi, Paul, c'est pas quelqu'un d'autre qui écrit cette lettre », elle est bien authentique. Je crois qu'elle montre aussi son soin d'un lien personnel, auprès même de gens d'ailleurs qui ne l'ont peut-être pas rencontré, ou en tout cas pas tous. Il montre son soin d'un lien personnel. « C'est moi, Paul, qui vous écrit de ma main. J'utilise un scribe, voilà, parce que c'est ce qui se faisait à l'époque, mais j'ai à cœur que vous sachiez que c'est bien moi qui vous parle. » Ce que Paul nous laisse à la fin de cette lettre, en fait, ce n'est pas simplement des salutations polies. C'est, me semble-t-il, vraiment un modèle de discipulat en réseau. C'est l'image d'une église vivante, d'une église transformée, d'une église en relation, non seulement les uns avec les autres au sein de l'église, mais même avec les églises environnantes, les autres. Une église qui a à cœur la mission, le fait de partager sa foi. Ceci parce que l'Esprit-Saint est un feu qui se répand. C'est un feu qui se répand. C'est l'Esprit-Saint qui nous envoie en mission. Acte 1, 8 dit « Vous recevrez une puissance, celle de l'Esprit-Saint survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est le travail de l'Esprit-Saint que de nous envoyer en mission. Et on retrouve ça évidemment dans le livre des Actes, par exemple au chapitre 13, versets 2 à 4, il nous est dit « Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit-Saint dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul, c'est-à-dire Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par l'Esprit-Saint, descendirent à Séleucie et de là s'embarquèrent pour Chypre. Et puis après, ils se sont disputés, tout ça. Mais enfin, le mouvement initial, c'est bien l'Esprit-Saint qui les envoie pour la mission. Mais si ce feu qu'on a en nous, ce feu qui peut-être est un peu faiblard en ce moment, si ce feu, il est trop circonscrit, c'est pas la même chose, c'est autre chose. Il est circonscrit, le feu, c'est-à-dire isolé. Alors on peut jeter dedans tout le bois de la prière qu'on veut, tout le bois de la parole qu'on veut, étudier la Bible et tout ce qu'on veut. Ce feu ne va pas grossir parce qu'il lui manque l'oxygène de la relation, l'oxygène des personnes. Ce feu de l'Esprit-Saint, il se répand par la relation. La lampe n'est pas faite pour être mise sous le boisseau, nous dit Jésus, elle est faite pour éclairer toute la maison. Alors parfois, on est freiné dans notre élan, effectivement, par les images qu'on se construit soi-même de ce qu'est l'évangélisation, de ce qu'est le partage, de ce qu'est le partage de notre foi, en fait. Et on imagine que les circonstances ne nous permettent pas d'être dans cet élan, ou notre caractère ne nous permet pas d'être dans cet élan. Et encore une fois, je trouve ça fort que Paul, du fond de sa prison, il ne pouvait pas aller faire du porte-à-porte, quoi. Il ne pouvait pas aller distribuer des flyers pour la prochaine soirée débat, il ne pouvait pas aller place des éléphants pour prêcher, pour aller à la rencontre des gens, il ne pouvait pas faire tout ça. Mais ça ne l'a pas empêché, même là où il était, de participer à la mission. Il a fait ce qu'il pouvait dans les circonstances qui étaient les siennes. Alors lui, il pouvait écrire, donc il a écrit. Il pouvait encourager, donc il a encouragé. Il pouvait mettre les gens en relation les uns avec les autres, donc il a mis les gens en relation les uns avec les autres, les églises en relation les unes avec les autres. Il pouvait prier, donc il a prié. Et il a demandé aussi la prière pour lui-même, pour qu'il ait l'occasion et l'opportunité, lui aussi, de partager sa foi. Et donc la question qui est pour nous, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Qu'est-ce qu'on peut faire cette semaine pour donner un peu d'oxygène au Saint-Esprit qui brûle en nous? Il n'est pas tout à fait éteint. Il est peut-être effectivement un peu faible, il nous paraît un peu lointain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui donner un peu d'oxygène? À qui est-ce que je peux parler? Vers qui est-ce que je peux me tourner? Qui est-ce que je peux inviter chez moi? Qui est-ce que je peux inviter à un café? Avec qui je peux rentrer en relation? En un mot ou en une phrase, qu'est-ce que je peux faire pour que mon nom se retrouve dans une lettre de Paul ? Je vais prier. Seigneur, je veux te remercier vraiment pour cette image que tu nous donnes à travers ces salutations finales de l'Épître aux Colossiens, d'une image d'une église dynamique, d'une église où les gens sont en relation les uns avec les autres. Paul s'adresse ici à des gens qu'il ne connaît peut-être même pas personnellement, mais il s'adresse à eux comme à des frères parce que c'est ce qu'ils sont. Il leur recommande d'autres frères qui vont arriver chez eux, qu'il envoie. Il leur demande de faire circuler ses lettres, de lire les lettres qui viennent d'ailleurs, Seigneur. Il y a du mouvement, il y a de la vie. Seigneur, nous croyons que c'est à cela que tu nous appelles, en fait, à être dans ce mouvement, dans cette vie. On ne sait pas exactement quelle forme ça prend pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes divers et variés, parce qu'il y a des diversités de caractères, des diversités de cheminement, parce que tu ne nous appelles pas tous à la même chose, pas tous de la même façon, mais on sait que tu nous appelles tous à la mission, tous à être en relation, tous à être témoins, les uns pour les autres, déjà entre nous, et puis aussi témoins vers l'extérieur. On ne sait pas toujours comment s'y prendre, et parfois on se met des freins soi-même, parce qu'on s'est construit une image de ce que devrait faire un disciple, de comment il devrait s'y prendre, de qu'est-ce que c'est l'évangélisation. Seigneur, il y a tellement de place pour la diversité, tellement de place pour que tu t'adresses à chacun selon son caractère, sa manière d'être, selon ses aspirations profondes, selon comment tu nous as créés chacun individuellement de manière toute singulière. Seigneur, je te prie pour que cette semaine, nous comprenions à quoi tu nous appelles, non pas de façon générale, mais de manière spécifique, pour cette semaine, pour peut-être le jour suivant, peut-être même pour le jour même. Qui est-ce que tu m'invites à appeler, avec qui tu m'invites à entrer en contact? Qui est-ce que je peux encourager? Quel nom tu fais monter à mon esprit, Seigneur, pour que j'aie une parole pour cette personne, une parole qui vient de toi, peut-être une parole toute simple. C'est peut-être juste un coup de fil, c'est peut-être une carte à envoyer, un petit mot. Seigneur, tu nous invites à entrer dans cette dynamique-là. Et Seigneur, c'est par ce biais-là que ton Esprit Saint s'étend, prend de la place en nous d'abord, et puis déborde vers les autres. C'est ça le témoignage. Seigneur, je te prie pour que vraiment chacun d'entre nous, cette semaine, nous puissions voir à quoi tu nous appelles, qu'on prenne ce petit temps, ne serait-ce que 10 minutes, en silence, devant toi, pour écouter ce que tu nous dis, écouter ce que tu nous demandes, écouter ce nom que tu viens faire affleurer à notre conscience, pour que nous soyons, pour cette personne, un sujet d'encouragement, un sujet d'édification. Tu mets des paroles dans notre cœur, nous ne voulons pas qu'elles restent dans notre cœur. Tu les mets dans notre cœur pour qu'elles sortent par notre bouche ou par nos écrits, comme Paul qui écrit. Seigneur, nous voulons être à ton écoute et faire ce que tu nous dis. Au nom de Jésus. Amen.